Bonsoir à tous. Je vais commencer donc l'intervention de ce soir. On est parti pour une heure à peu près d'échange autour de cette question de... Vous me dites si le micro marche bien, pas trop, enfin voilà. Et du coup, après une heure de débat autour de la question de l'autorité parentale versus, comme je l'avais appelé, l'autorité de l'enfant, et sur les enjeux et les dérives... finalement, de la question de l'autorité au sein de l'espace familial, au sein de la famille. Du coup, en fait, l'an dernier, quand à l'Université populaire, il nous a été dit que le thème serait pouvoir et contestation, comme il est un petit peu d'usage, je dirais habituellement, on se fait un petit debriefing entre nous et puis on s'interroge sur ce sur quoi on pourrait essayer de penser une intervention. L'an dernier, du coup, j'ai eu cette forme d'intuition comme ça, et puis l'année s'est écoulée, je l'ai laissé vivre aux prises avec le travail clinique essentiellement, et puis je me retrouve là donc ce soir à me demander ce que je vais pouvoir vous raconter à ce sujet. Je veux dire par là que l'intuition de base, elle a sans doute été la question de l'autorité pour moi au niveau de la famille autour de cette dimension. On parle beaucoup de l'autorité parentale et j'ai essayé de m'interroger un petit peu sur la question de l'autorité chez l'enfant. Est-ce que l'enfant faisait autorité? Est-ce que l'enfant avait une autorité? Est-ce qu'au sein de la famille, l'enfant, pouvait être considéré comme possédant? Je crois qu'il y a aussi la question du pouvoir qui est convoquée par l'autorité, possédant une forme d'autorité au sein du groupe familial. J'ai pas de réponse, je vous rassure tout de suite. Donc, l'idée, ce que je souhaitais un petit peu vous apporter, c'était deux, trois éléments de réflexion, et puis après qu'on puisse, peut-être au travers du débat qui devrait suivre, essayer de co-construire une réflexion ensemble autour de ces enjeux-là. Pour ma part, je m'appuie essentiellement là sur une pratique donc de psychologue clinicien et en ITEP et sur un lieu d'accueil et de rencontre pour parents et enfants séparés. Du coup, c'est une clinique singulière et on a un petit peu comme défaut ou comme difficulté, qui n'est pas forcément un écueil, mais qui en tout cas peut devenir problématique dans notre discipline, cette spécificité qui est que on rencontre que des gens qui vont pas bien. Ça pose souci, parce que du coup, en m'interrogeant par rapport à ces questions-là, je me demandais un petit peu comment ça pourrait se passer ailleurs, dans une famille où tout irait bien, si ça existe. Et voilà, c'est jamais acquis. En tout cas, dans une famille idéale, une espèce de modèle comme ça, qu'on pourrait rêver un petit peu sous la forme d'une utopie, une famille où finalement qui n'aurait pas besoin de faire appel à des travailleurs sociaux, à des thérapeutes, à des institutions tierces pour réguler quelque chose de leur processus de développement, de leurs interactions et parfois même de leur effectivement de la régulation de la question de l'autorité au sein de l'espace familial. Bien souvent, ce qu'on peut entendre, c'est chez des parents des motifs de consultation qui sont aussi, du côté d'une consultation peut-être plus ouverte en CMP ou sur une pratique libérale, des interrogations vers le champ psy pour tenter d'injecter du surmoi, de l'interdit, des limites chez l'enfant en disant il a à peine 2 ans et déjà il me pousse à bout, il me déborde, j'arrive pas à lui donner un cadre. Et on devrait être là un petit peu comme des prescripteurs d'interdits ou de limites, pensant comme ça peut-être que le psy peut avoir une fonction de gendarme ou de faire appel au psy comme on pourrait faire appel à une espèce de figure qui représenterait l'autorité. Sans doute que cette dimension-là est d'autant plus marquée d'ailleurs dans les consultations psychiatriques que psychologiques aussi, la figure du médecin faisant autorité. Le côté de la blouse blanche bien sûr, mais sans doute aussi de l'identité médicale. Alors, Du coup, partant de, enfin, ces quelques réflexions, l'idée que je finalement j'ai dans mon sac, on va dire, une clinique avec des gens qui vont pas forcément bien, je me suis interrogé, je me suis dit le risque c'est de vous présenter uniquement des dysfonctionnements, des défaillances, voilà. Je suis pas sûr d'avoir réussi à surmonter cette limite, voilà, donc ce que je vais présenter a cette partialité que finalement il s'agit de familles qui sont véritablement en souffrance, en difficulté dans leur positionnement au niveau soit de la parentalité, soit au niveau de la conjugalité, d'une part, et puis pour une autre part, des enfants qui sont ou malades ou ont des troubles psychiques importants et finalement qui confrontent leurs parents à une forme de difficulté et dans le lien et dans la façon de faire avec. Sans doute que vous avez, je ne vais pas reprendre des choses qui seraient évidemment trop évidentes pour tous, vous avez tous en tête l'idée que finalement à la parentalité naît l'individu dans une forme de co-construction qui ne peut avoir lieu que grâce à l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille. C'est l'enfant qui rend, qui donne aux parents le statut de famille. Dans le droit français, en tout cas, il est d'usage de penser les choses ainsi. Vous n'avez pas de livret de famille autrement que ou par le mariage ou par l'arrivée d'un enfant. Ça dit quelque chose quand même d'important parce que d'avoir un enfant, ça suppose effectivement une modification des places. On n'est plus fils d'eux ou fille d'eux, on devient le père ou la mère. Et je dirais cette arrivée-là bouscule l'organisation familiale et va réinterroger les places de chacun au travers de leur histoire, au travers de leurs identifications passées, au travers du coup, on va dire dans le jargon, des imagos dont ils disposent, de leurs objets internes. Et cette question-là est véritablement à prendre en compte dans, je dirais, dans la question de la régulation du lien social intrafamilial, hein, pour l'appeler comme ça. On pourrait aussi penser que cette famille, dès lors constituée, avec l'arrivée au moins d'un enfant, parfois plusieurs, les gens répètent parfois ce genre d'erreur, et du coup fondent des familles comme ça, plus nombreuses encore, et ça vient recomplexifier la chose, et que cette dimension-là, elle est riche, je dirais, de toutes les potentialités qu'on peut retrouver dans le champ social, et dans un groupe social défini. Hein, on pourrait considérer en ce sens, Lacan disait, la famille comme une institution, en disant que de la famille, quelle était une institution. Sans doute qu'on retrouve cette forme de, je dirais, de régulation des liens au sein de la famille. Alors on ne fait pas forcément de conseils de famille pour autant, si dans des institutions on va avoir des instances régulatrices, voilà, on pourrait s'interroger de savoir comment les choses se régulent au sein du groupe familial. Je ne vais pas aller plus avant sur cette question de la famille. On aura peut-être l'occasion, dans une perspective du côté de la normalité, de pouvoir y réfléchir. Voilà. Ce que je souhaitais vous proposer, c'était deux, trois éléments autour de la question de l'autorité parentale. Commencez par vous rappeler une première définition qui permet quand même de poser des bases et je dirais de donner des repères autour du droit qui définit du coup l'autorité parentale. C'est quand même pas rien. Le droit définit pas l'autorité de l'enfant, il définit les droits de l'enfant. Hein, l'enfant aurait des droits, il n'a pas de devoirs du point de vue du code civil. Les parents, eux, ont des droits et des devoirs. Voilà, donc on peut imaginer déjà l'écart au niveau de la conception qu'on peut rencontrer entre un enfant et un parent. Du coup, le code civil précise que l'autorité parentale et l'ensemble un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc l'enfant là est au cœur de cette question. Elle appartient donc au père et mère jusqu'à la majorité, voilà, ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne, dû à sa personne. Donc les parents associent l'enfant, c'est toujours la loi, là. Les parents associent l'enfant aux décisions qui concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc on voit comment l'autorité parentale, ne serait-ce dans le texte de loi, parce que je vous cite, c'est l'article 371.1 modifié donc du 4 mars 2002, la loi 2002 a modifié effectivement je dirais cette dimension de l'autorité parentale. Historiquement, on sait que dans le premier code civil, on parlait de puissance paternelle. Voilà. Cette notion a été abandonnée, somme toute sans doute un peu considérée comme trop phallique. Et voilà, c'est cette dimension de la puissance paternelle. On voit bien là la confusion entre, je dirais, la puissance et l'autorité et la question du pouvoir. On voit aussi un premier paradoxe par cette phrase qui est donc qui est adjointe là au texte, hein, quand il est dit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. C'est éminemment, éminemment difficile de savoir ce que ça signifie, cette phrase. En tout cas, ce qu'on peut entendre dans un premier mouvement comme ça, c'est que l'enfant, comment dire, est associé, donc elle est partie prenante de l'autorité parentale des parents, hein, sachant que cette même autorité n'existe que du fait qu'ils ont un enfant et n'a comme pour finalité que l'intérêt de l'enfant. Hein. Donc on voit bien déjà cette forme de récursivité, je dirais, de boucle comme ça, hein, qui tourne sur elle-même, où la question de l'autorité parentale est contingente de la place qui est donnée à l'enfant et de l'écoute qui peut lui être donnée dans les décisions qui vont le concerner. Et en effet, il arrive quand des parents prennent certaines décisions qui ne semblent pas adaptées pour l'intérêt de l'enfant, alors qu'un magistrat intervienne, qu'un tiers intervienne pour dire droit du côté de l'intérêt de l'enfant. Du coup, de préciser malgré tout, je vais être rapide sur les dimensions juridiques parce que je ne suis pas magistrat, c'est pas ma spécialité, puis c'est pas forcément l'intérêt de la causerie de ce soir, mais que l'autorité parentale est une mission d'ordre public aussi, hein, et que seul un jugement peut la modifier. Ça, c'est quand même important à avoir en tête, qu'elle est aménagée dans l'intérêt de l'enfant, et donc c'est pourquoi elle est contrôlée par la société. Il y a vraiment une dimension de contrôle quand on lit des écrits de magistrats, quand on échange avec eux, donc ils nous font part de cette dimension-là, qu'effectivement la société a ce devoir aussi de contrôler la capacité et les modalités dont les parents mettent en œuvre leur autorité parentale vis-à-vis de leur enfant. Donc du coup, la responsabilité première revient aux parents, dans tous les cas. Ils restent parents, dans tous les cas, même si le tiers d'un juge pour enfants vient intervenir pour réguler ces dimensions-là. Malgré tout, il y a une exception à la règle, comme bien souvent. Le jugement d'adoption, du coup, plénière, peut modifier la filiation avec la déchéance des droits parentaux et le fait que l'enfant est retiré alors du livret de famille et n'est plus considéré comme étant le fils ou la fille de ses parents. C'est une mesure qui intervient que très très rarement, d'une manière globale, hein, pour travailler autour de situations avec des enfants qui sont en situation de placement, au titre de la protection de l'enfance, qu'on appelle anciennement, on parlait de la DAS, hein, les enfants de la DAS, maintenant c'est l'aide sociale à l'enfance, quand même depuis un paquet de temps, donc il faudrait que même dans les séries télévisées, ils arrivent à arrêter de parler de la DAS. Ça n'existe plus, donc c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et du coup, effectivement, quand l'ASE s'en mêle, et donc le juge pour enfants, bien souvent, même si l'enfant a subi ou a rencontré les pires sévices, l'autorité parentale peut être retirée aux parents. Pour autant, il conserve un regard et, il y a une nécessité de ce que les parents soient informés régulièrement et puissent donner leur avis sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, donc les grandes décisions qui relèvent de leur enfant. Et un parent qui, même s'il a été, il n'a plus l'exercice de l'autorité parentale, peut dire son mot sur la question de la scolarité, la santé, l'éducation et la religion, ou un régime alimentaire parfois, pour des motifs culturels, religieux ou philosophiques. Et du coup, le parent reste, malgré tout, grâce à la loi de mars 2002, le parent reste acteur, de la vie civile et puis psychique aussi de son enfant, quoi qu'il arrive, sauf réellement déchéance de l'autorité parentale. Ce qui arrive bien souvent aussi, dans des situations peut-être un peu plus banales, parce que tous les enfants ne sont pas placés, en cas de divorce, il arrive que l'autorité parentale soit donnée, en tout cas, attribuée plutôt, pour parler plus justement, à un seul des deux parents, en cas de conflit grave, ou de désintérêt manifeste d'un des deux parents, ou de négligence importante. Et là, on dit souvent, un peu rapidement, c'est moi qui ai l'autorité parentale, voilà ce qu'on entend dans la bouche des parents dont on s'occupe. C'est moi qui ai l'autorité parentale, il n'a pas son mot à dire, parce que bien souvent, c'est quand même le papa qui... à qui on la coupe, hein, et du coup, la maman qui la possède. Donc, cette autorité parentale, bien sûr. Et du coup, il s'agit quand même de penser que, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, c'est un magistrat qui me rappelait ça, un juge aux affaires familiales, qui nous rappelait que c'est pas l'autorité parentale qui est retirée, c'est l'exercice de l'autorité parentale. Et la nuance est peut-être un peu subtile, mais elle est importante parce que, du coup, les parents conservent l'autorité parentale, sauf qu'ils n'ont pas forcément l'exercice de l'autorité parentale. Ça me fait associer sur un bouquin de Houzel qui est très intéressant sur les enjeux de la parentalité, je crois qu'il se nomme, et qui était un ancien rapport ministériel il y a quelques années autour de la question de la parentalité, en disant qu'on pouvait avoir une parentalité réelle, exercée, on peut avoir une parentalité symbolique, une parentalité d'usage, et qu'il y a un écart entre le fait d'être parent juste parce qu'on a un enfant sur les bonnes familles, le fait d'être parent parce qu'on vit avec son enfant, c'est pas la même chose. On n'est pas le même parent quand on vient un week-end sur deux et la moitié des vacances avec lui, ou quand on va le voir dans un lieu aménagé parce que l'enfant est placé dans une famille d'accueil ou un foyer. Donc du coup, voilà pour ces questions un petit peu autour de, je dirais, de la législation française à l'heure actuelle. Attendu que cela nous pose, à nous, travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes et autres, des difficultés majeures aussi dans l'association des parents aux décisions qui concernent l'enfant, parce que globalement, même des parents qui, effectivement, sont en grande difficulté, sont carencés, continuent de devoir être associés aux décisions de l'enfant, et que parfois, ils vont aller s'opposer par principe, par incompréhension, pour diverses raisons, je ne vais pas toutes les lister, mais globalement, ils peuvent s'opposer à une décision qui paraît plutôt juste pour un enfant, parce que soit ils ne comprennent pas cette décision-là, soit ils ne veulent pas la comprendre ou l'accepter, et cela, effectivement, peut poser problème, parfois requérir aussi l'intervention d'un magistrat pour pouvoir imposer aux parents ce que le tiers social estime comme bon pour leur enfant. Ici, tout de suite, la dimension potentiellement castratrice que cela peut contenir, hein, pour des parents qui malgré tout ont eu ces enfants-là, ce sont les leurs, et qui ne peuvent plus décider véritablement librement du destin qu'ils pourront tracer pour leur enfant. C'est une question forte parce que je pense qu'elle ne concerne pas que des familles dysfonctionnantes, hein, et que dans bon nombre de familles, un problème, une difficulté, des tumultes dans le parcours de vie est advenu, tout parent, mère ou père, peut se trouver confronté à cette question de la limitation de l'exercice de ses droits et de son autorité, et de fait, être confronté à une situation potentiellement infantilisante, hein, où le tiers social est censé, ou en tout cas réputé, savoir mieux que quiconque, ce qui est bon pour l'enfant. Ça pose aussi des questions éthiques, je crois, qu'on pourra peut-être soulever tout à l'heure. Du côté de l'autorité, parce que là je vous parle de l'autorité parentale, ce soir l'idée c'était pas que de parler de l'autorité parentale, c'était de parler d'autorité des parents et de l'autorité de l'enfant. Savoir qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce qui fait autorité, je me suis essentiellement basé sur un article d'André Carrel qui se nomme « Le processus d'autorité », qui est un article qui a permis d'ailleurs à André Carrel de recevoir le prix Pierre Malle il y a quelques années de ça, qui est un prix sur la clinique adolescente, reconnaissant du coup la valeur de ce travail qui fait une vingtaine de pages, qui est riche, qui est accessible d'accès, je pense à tout un chacun. Il souffre peut-être juste de ne pas être suffisamment illustré de clinique, mais malgré tout, on a tous des situations en tête quand on lit cet article. Il est paru dans la Revue française de psychanalyse, pour ceux qui pourraient le rechercher, dans le numéro 1 de l'année 2002. Voilà, un numéro, donc, ou volume 66, mais c'est pas forcément utile comme repère, un numéro qui parlait, qui se nommait « Les familles aujourd'hui », sur la question, donc, des familles aujourd'hui, et donc la psychanalyse s'intéresse aux questions actuelles, contemporaines, de la psychanalyse. André Carrel est un psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, qui appartient au groupe lyonnais, là, qui est lyonnais. Cet article, vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur le site Cairn, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cairn.info, www.cairn.info, et vous avez accès gratuitement, librement, aux articles que vous pouvez télécharger en PDF, comme ça, à partir du site, dès que les articles ont plus de 5 ans. Voilà, ils sont libres de droit, donc c'est intéressant pour les étudiants, ceux qui font des recherches, parce que on a une banque de données là qui est importante. Donc je me suis basé essentiellement sur cet article parce que c'est à peu près le seul qui, écrit par un psychanalyste, traite de cette question du processus d'autorité, de l'autorité en tant que processus, et c'est ainsi qu'il le définit. Hein. Il dit bien, je peux le citer, que l'autorité n'est ni un état, ni une position, mais un processus, un ensemble de processus. Et c'est ça, nous, qui peut nous intéresser. Quand je dis « nous », alors c'est... les psychistes, mais sans doute qu'on ne l'est pas forcément tous ici, mais peu importe, je crois qu'il y a l'autorité telle qu'on peut la concevoir en sociologie, en anthropologie, en droit, et puis l'autorité du côté de la question psychique. Hein. Il repère ce processus d'autorité comme un opérateur transitionnel entre soi, l'autre, et le groupe des autres. Ça, c'est assez important parce qu'effectivement, on voit comment cette chose-là se dialectise immédiatement dans un rapport intersubjectif, mais aussi un rapport social qui inclut la société, enfin le tiers extérieur. Et cet opérateur, du coup, est au service de la croissance psychique du sujet, hein, ce qu'il nous dit. Et ça lui permet d'ailleurs de penser la question du processus d'autorité comme un processus au service de l'augmentation, il le dit, de la croissance psychique du sujet, de quelque chose qui va de l'avant, qui va du côté du développement, du côté d'une augmentation, en faisant lien avec l'idée que l'origine latine étymologique de l'autorité, du coup, dérive du latin augere, qui vient de augmenter d'une part et de actor, auteur, d'une autre part. Hein. Donc avec cette double dimension d'augmentation et cette dimension d'être acteur de. Je vous laisserai vraiment aller voir cet article, même si je vais y faire comme ça 2-3 échos. D'une manière générale, il propose de penser ce processus d'autorité comme une forme de jeu. Comme une forme de jeu et de convoquer la question de l'humour comme, je dirais, modalité peut-être ultime, la plus efficiente pour maintenir quelque chose, une forme de transitionnalité du côté de l'exercice de l'autorité dans la régulation des liens intrafamiliaux. Alors c'est peut-être un petit peu obtus ce que je vous raconte, là, enfin, je ne sais pas, comme ça dit du temps blanc, ça peut paraître un peu abscon. Globalement, on peut l'entendre comme un processus qui est lié à la conflictualité « moi sur moi ». Vous avez quand même une petite notion de l'histoire, en plus ça avait été rappelé, je crois, antérieurement sur la seconde topic freudienne, le moi et le ça, avec l'idée que le fonctionnement psychique suppose une forme de représentation, comme ça c'est une proposition de Freud en 1920, du côté de la question de l'identité, du moi conscient de l'individu, et puis de l'autre côté d'un foyer pulsionnel, le ça, et le surmoi qui adviendrait au déclin du complexe d'Œdipe, hein, qui serait finalement la production au sortir du complexe d'Œdipe, son avènement étant rendu possible par l'intériorisation et l'intégration, pour ainsi dire, des interdits parentaux, des limites, des... comment dire, oui, la dimension du renoncement que suppose toute la problématique oedipienne. Hein. Ces interdits parentaux, ils se figurent très précocement, c'est pour ça que la Miss Anna Freud, Mélanie Klein, elle a pu postuler cette idée d'un surmoi précoce. Hein. C'est-à-dire que si Freud, lui, l'avait pensé autour d'un âge qui est juste avant celui dit de raison, hein, voilà, et avant d'entrer en latence, Mélanie Klein, elle, va postuler l'idée d'un oedipe précoce. Ce oedipe précoce, il dit que finalement l'enfant serait confronté à cette question des pulsions et des interdits très très précocement, d'un âge primaire pour ainsi dire. Ceux qui sont parents le savent, on sait bien comment le non arrive très tôt, à peu près aussitôt que le pourquoi de l'enfant, le parent arrive avec son non et va interdire pour protéger, interdire pour préserver, interdire pour pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse maintenir son processus de croissance, de développement, et dans un premier temps, rester en vie. Je crois que c'est ça qui compte. Le non protège, les interdits protègent et empêchent la mise en danger de l'enfant, tout d'abord sur une dimension parfois très basique, hein, de la fenêtre est ouverte, l'enfant se penche, non, il vaut mieux là qu'il y a un non. Hein. Le four est chaud, l'enfant approche sa main, non. Voilà, donc c'est effectivement cette arrivée de l'interdit, figurée par le nom, va être récupérée par l'enfant, et à ce moment-là, les parents se rendent compte de leur pénibilité, finalement, vis-à-vis de l'enfant, parce que l'enfant leur renvoie un peu en miroir cette question du nom, se réapproprie ces interdits, et avant même vont aller s'approcher de l'objet dangereux ou d'un acte interdit, regarde le parent, regarde l'objet, regarde le parent, et ils font non, ou ils font un signe du doigt si les parents l'ont associé, parce que voilà, souvent l'engagement verbal compte beaucoup à cet âge-là, et ils vont quand même essayer de toucher souvent l'objet, ou enfin voilà, d'aller piquer le cookies dans la bonbonnière, enfin. C'est le premier interdit qui nous permet de figurer, en tout cas de nous représenter comme ça, peut-être un peu basiquement, et simplement quelque chose de la question de l'autorité, plutôt saine et nécessaire au sein des relations familiales. Cet interdit, il limite, il protège, car elle nous dit que du coup, l'autorité parentale, hein, ou le processus d'autorité proscrit d'un côté et prescrit. Cette double valence est intéressante pour penser cette question du processus d'autorité, avec l'idée du coup qu'elle proscrit du côté de l'interdit, hein, c'est tout d'abord ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à la question de l'autorité, et puis elle prescrit des actes, des valeurs, des repères moraux, des objectifs, en disant maintenant... voilà, tu vas aller prendre ton bain, tu dois manger, c'est l'heure, non, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas, c'est pas en négatif, mais ou plutôt va faire tes devoirs, ou enfin voilà, donc elle va proposer des actes qui sont, je dirais pour certains, du côté positif, et puis elle va en proscrire d'autres du côté négatif, du côté de ce vers quoi le parent ne souhaite pas que l'enfant aille. Je crois qu'il y a l'autorité, d'une manière globale, renvoie aussi cette question du risque du pouvoir, hein, et de ses potentielles dérives. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais dans pas très longtemps d'ailleurs, mais elle est aussi à penser du côté d'une forme de violence, parce qu'on voit bien comment le parent se prend en pleine figure la question de la violence de l'enfant qui lui dit non, qui lui dit c'est interdit. Récemment, je sais pas, je suis en train de penser à ça, une petite fille qu'on accueille là sur la structure d'accueil pour parents enfants séparés, qui du coup venait découvrir son père pour la première fois, et cette jeune fille qui doit être âgée à peu près de 2 ans, mais là je compte pas forcément, enfin je sais pas s'il a à peu près cet âge-là, ça va être après 2 ans, et du coup en retrouvant sa maman. Alors, il y a eu différents moments, mais au moment de s'embrasser, elle tente de poser ses lèvres sur la bouche de la mère, et puis elle dit non. Et elle détourne le visage de sa mère, et elle lui fait un bisou sur la joue. Et en localisant quelque chose d'une sphère de, effectivement, du corporel à laquelle ben, on ne peut pas avoir accès comme ça sur un contact buccal-buccal, même s'il y a des parents qui aiment bien rouler des grosses pelles à leurs enfants. Globalement, c'est socialement pas vraiment admis. Hein. Alors, dans ceux dont on s'occupe, il y en a beaucoup qui, l'autre fois, l'idée me venait comme ça en tête, les embrassent sur la bouche pour leur dire bonjour et leur plotent les fesses pour leur dire au revoir. Et ça convoque la question de l'incestualité, ça convoque vraiment cette question-là. Alors, ça vous fait sourire, c'est tant mieux. Je dirais, eux ne réagissent pas à ça. On a beau leur dire, non, mais on a toujours fait ça en famille, c'est je vois pas en quoi ça vous pose problème, enfin, je l'aime, hein, et voilà. Et dans ce je l'aime, on peut tout accepter. Je pense aussi à un autre papa qui amenait des roses rouges à sa fille en disant « Mais bah, c'est ma fille, je l'aime, donc pourquoi je ne lui amènerai pas des roses rouges ?» Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est du côté de, je dirais, d'un transfert, mais au sens premier, pas au sens psychanalytique, hein, mais voilà, ou d'un effet de déplacement, c'est pour le dire autrement. Mais quand je dis un transfert, c'est une forme de calque, hein, de quelque chose qui est transposé immédiatement d'une relation d'amour de type génital adulte, comme on pourrait aimer, comme un homme pourrait aimer une femme réciproquement, à comment un adulte pourrait aimer un enfant. Et là, on voit bien comment on est au risque d'être du côté de la confusion des langues, qui est une notion qui avait été amenée par Ferenczi, hein, du côté d'une forme d'indifférenciation entre les besoins de l'enfant et les besoins du parent. Cette question-là, elle est aussi à prendre en compte de façon importante parce qu'elle, je dirais, elle va teinter, elle va colorer la question de la capacité ou des modalités à pouvoir exercer l'autorité parentale ou son autorité, en tout cas en tant que parent, vis-à-vis de l'enfant. Et pour bon nombre de parents, c'est pas une question qui pose souci. Hein, c'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure cette formule peut-être un petit peu visuellement parlante et peut-être un peu violente, mais dire bonjour en s'embrassant sur la bouche et au revoir en se plaçant les fesses, c'est pas une blague, hein, c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de familles. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui va interroger ses parents, ni ses enfants d'ailleurs, hein, qui sont confrontés à ces expériences-là. Ça va les interroger un petit peu plus tard quand ils verront que, effectivement, dans les modalités d'être au monde avec des tiers, et ben, c'est pas comme ça que ça se passe, et qu'a priori, on n'a pas un accès au corps de l'autre de cette façon-là, je dirais, l'autre est étranger à nous, s'il y a un écart générationnel, si par exemple, ils vont pouvoir expérimenter ça de leur place de petit enfant avec des pères de leur âge, mais ils vont s'apercevoir que la maîtresse ne les embrasse pas sur la bouche, que le médecin non plus pour la consultation, et que globalement, c'est quelque chose d'inadapté, mais ça, c'est vraiment au fil du processus de croissance qu'ils vont pouvoir développer cette perception d'une forme de, on va dire, de dissonance, hein, je ne vais pas dire d'anomalie, mais en tout cas d'écart, de dissonance entre les repères vis-à-vis desquels ils sont construits et les repères qui sont communément partagés. Ça convoque aussi, de fait, la dimension de la norme, hein, et des valeurs morales, et on voit bien comment le droit français et d'un point de vue plus psychanalytique, la question des interdits et du surmoi est éminemment contingente aux valeurs. Mathieu rappelait hier un très bel article, il me rappelait, alors je ne sais plus si c'est à vous ou à moi, mais sur les valeurs en psychanalyse, un article de Joyce McDougall que vous pourrez trouver aussi dans la RFP, et sur les valeurs du coup de la psychanalyse et du psychanalyste, sur l'idée que finalement on est aussi tous autant qu'on est teinté de certaines valeurs morales, on est issu d'une culture, d'une éducation, et qu'en fonction de ça, il y a des choses qui paraissent anormales et puis d'autres non. Hein. Et en fonction de là d'où on est issu et des normes vis-à-vis desquelles on a été amené à se développer, tout ne va pas forcément nous paraître adapté. Et je pense que nous-mêmes, on en fait l'expérience quand on va voyager dans un pays étranger où on s'aperçoit que les repères ne sont pas les mêmes, il n'y a pas besoin de, pour autant, ça veut pas dire que le pays dans lequel on va aller en voyage ou rencontrer d'autres personnes est composé uniquement de gens qui seraient dysfonctionnants. Voilà. Ils ont d'autres repères aussi culturels ou sociologiques qui sont liés à la couleur locale. Ce qui m'amène à penser, du coup, cette question autour de, je dirais, du surmoi dans une forme de conflictualité qui contient aussi la dimension de la haine et de l'agressivité. une phrase qui est citée par Carrel comme ça autour de cette question-là, une phrase d'Anna Arendt sur un écrit qu'elle a nommé « Qu'est-ce que l'autorité ?» qui est issue de la crise dans la culture chez Gallimard. Anna Arendt qui s'est beaucoup interrogée autour de ces questions-là, mais plus sur le champ social, politique et historique, on pourrait dire, avec une forte dimension philosophique aussi dans ses réflexions, avec une pensée puissante mais complexe. Et je la cite du coup, « Puisque l'autorité requiert toujours obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir, de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs, de coercition. Là où la force est employée, l'autorité, proprement dit, a échoué. » Cette idée est donc que, effectivement, il ne s'agit pas de confondre l'autorité et la force, ou la violence et la fermeté. Hein. Et que bien souvent, dans des parents qui sont un peu poussés à bout pour leurs enfants, pour des raisons diverses, soit parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à établir des relations suffisamment convenables avec eux, soit parce que effectivement les enfants les ont confrontés à des modes de troubles qui se manifestent surtout sur un aspect comportemental et qui mettent les parents en difficulté, les parents disent bien comment ils ont du mal à être autoritaires, suffisamment fermes avec leurs enfants, et ils disent « mais je fous des beignes, hein, j'arrête pas de le claquer, mais ça marche pas. » Ou « mais je l'ai bien enfermé des heures dans sa chambre, hein, mais ça, voilà. » Et là on voit bien comment déjà la question de l'autorité, qui est bien une question interne, qui est bien une question qui se passe dans le positionnement individuel du parent, et d'emblée, je dirais, en état d'éliquescence, elle est mise à mal, et qu'on voit l'incidence que ça peut avoir du côté de l'exercice d'une forme de coercition, du côté d'une forme de violence, d'une forme de représailles, de l'expression de la haine ou autre. Cette question-là, elle va se rencontrer, dans des problématiques aussi où enfants et parents, ont des particularités, qu'elles soient sociales, psychiques ou je vais préciser sur ces formes en tout cas d'autorité, enfin de fonctionnement familial dysfonctionnel, parce que je vois que le temps passe, je me dis je suis en train de vous faire l'introduction, mais là on va pas rester 3 heures. Alors peut-être d'aller vers l'idée que on a tous un surmoi, hein, on dit l'autorité, l'enfant va l'intégrer. Alors comment dire ? Non, le parent devrait exercer l'autorité et l'enfant, lui, devrait la subir. Hein, pour faire une forme de dialectique peut-être un peu basique, mais dont j'accepterais que vous puissiez vraiment la critiquer dans un second temps. D'un côté, l'un l'aurait et l'autre ne l'aurait pas. Ça convoque la question du phallus, hein, et la question du pouvoir aussi, dont Claire de Rosard vous parlera au regard de la différence des sexes la semaine prochaine. Cette dimension-là, elle peut être interrogée vis-à-vis aussi du fait que l'enfant, si l'enfant possède un surmoi, le parent aussi. Le parent a été enfant, comme je vous le disais, et du coup, il s'est construit au travers de son Œdipe et puis des réaménagements œdipiens propres au bouleversement pubertaire lié à l'adolescence. Le parent s'est construit avec ces repères-là, et en fonction de ces repères-là, en fonction de, je dirais, de sa capacité à avoir plus ou moins bien intériorisé ses interdits, va être plus ou moins à l'aise avec la capacité à pouvoir exercer son autorité parentale. Cette forme d'offre surmoïque, Carrel en parle ainsi, hein, sur une forme d'offre surmoïque, sur quelque chose qui est offert, en tout cas à la relation, offert à être pensée, il renvoie la question de la culpabilité. Je vous cite une petite phrase là de sa part où il dit que le parent, s'il parvient à percevoir ce sentiment inconscient de culpabilité, du coup, qui est lié à l'exercice de son autorité, hein, va reconnaître qu'il redoute en effet que son acte d'autorité, sa fermeté, ne soit ressenti par l'enfant, en fait par lui-même, comme une forme de méchanceté, une agression, un acte d'hostilité, contraire à l'idéal d'amour qui est censé guider l'éducation. Et on voit bien comment, là, on est aux prises avec toute la problématique pulsionnelle, où exercer suffisamment de fermeté, d'autorité, mais une forme d'autorité de bon aloi, une autorité saine, convoque la question de l'amour et de la haine, sous ses formes pulsionnelles basiques, des formes du côté, on pourrait dire autrement, de la tendresse ou de la destructivité et du sadisme. Effectivement, on voit comment le sadisme, il est très rapidement là, dès que la capacité à exercer son autorité est amenée. Hein, ce parent qui peut dire, j'arrête pas de lui foutre des baffes, mais après, bon, la suite que je vous ai pas dit, ce monsieur qui me racontait ça, c'était une situation où effectivement, il a des travailleurs sociaux sur le dos depuis un bon nombre d'années, et il dit, mais voilà, les assistantes sociales me disent qu'il faut pas faire ça, enfin que, après, si je lui fous des baffes, je me fais engueuler, hein, mais il peut dire ça quasiment comme un enfant. C'est-à-dire qu'on voit comment l'intervention du tiers social peut être infantilisant aussi pour le parent. Et à la fois, on interdit ça socialement. En France, c'est interdit, hein, de foutre des baffes ou d'exercer des sévices sur son enfant. Et après, on me reproche qu'il soit agité, qu'il devienne délinquant, qu'il vole des mobilettes, qu'il fume du shit. Alors, comment on s'y prend? Enfin, effectivement, si on peut même plus taper ses enfants, où va-t-on? J'avais failli commencer l'intervention en vous disant rien ne va plus, à ma bonne dame, c'était quand même mieux avant, admettant, on n'aurait pas pu, voilà, on n'aurait pas accepté ça, enfin, toutes ces espèces de présupposés là sur l'idée un petit peu nostalgique, passéiste et idéale d'une forme d'autorité, de respect. On parle aussi de ça, c'est quelque chose de très contemporain, c'est la question du respect. Du respect qu'on est tenu d'avoir vis-à-vis de ses aînés, et comme quoi les jeunes ne respectent plus les codes sociaux. Alors nous, on en sait quelque chose, génération Y, là, enfin, voilà. Donc, on voit bien comment, effectivement, on n'est plus obligé d'être en costume trois pièces. Et on voit bien aussi comment l'enfant, d'emblée, peut respecter l'adulte, mais tout en mâchant son chewing-gum, tout en le tutoyant alors que l'autre a 40 ans de plus que lui et qu'en fait c'est toutes ces formes-là qui troublent parfois les adultes, hein, vis-à-vis de leurs repères et qui n'ont pas l'air de vraiment déranger, les jeunes dont on se... Du coup, je voulais essayer de vous présenter comme ça de façon un petit peu sommaire, éparse ou un peu sous la forme d'un patchwork, mais les associations qui m'étaient venues hier soir, autour de ces questions-là. L'idée qu'il y a différents facteurs qui peuvent participer de l'altération des processus d'autorité au niveau du lien familial et m'était venue, une forme de thématique qui est peut-être évidente pour la question des fichistes, mais qui est souvent retrouvée dans la plupart des réflexions autour des questions de la parentalité, autour du vécu de perte ou des situations de deuil. Et que la séparation est un vecteur central dans le processus de construction de l'individu en tant qu'il permet aussi son individuation. Je pensais aux questions de la perte, aux questions du deuil, mais alors pas de question du deuil en mode Sigmund Freud, deuil et mélancolie, hein, sur une question métapsychologisée du deuil, sur le fait que quelqu'un meurt. Sur le fait que ce processus de deuil, il peut se retrouver aussi dans la question des séparations conjugales, qui est une question donc, qui est souvent rencontrée là sur un de mes lieux d'exercice, des situations de séparation conjugale, qu'elles soient difficiles ou non, hein, d'ailleurs. Parce que finalement, la séparation, elle va convoquer une interrogation du côté de la répartition de ses droits. On en prend combien? 60-40 voilà, alors, et souvent on va dire que c'est plus que la majorité pour la maman, ou en tout cas celui qui a l'hébergement, et puis celui qui a un week-end sur deux, la moitié des vacances, aurait moins d'autorité. Et on s'aperçoit comment les pères, je vais dire d'une manière générale, parce que ça représente à peu près 90% des situations, mais d'une manière générale, en tout cas le parent, nous qu'on va appeler visiteur, il y a le parent hébergeant et le parent visiteur, c'est assez atroce, hein, comme terme, c'est les réalités sociales avec lesquelles on navigue. Et le parent qui n'a pas la garde de son enfant, effectivement, le gâte, va le choyer, va être quasiment dans une position grand-parentale avec lui, en l'emmenant sur une espèce de projet de week-end rempli de séduction. On croirait quasiment un premier flirt, où il lui fait, je dirais, la grande scène, c'est McDo, manège et cinéma, voilà. Donc il a le droit à parfois la piscine quand il fait beau, mais encore les papas ils aiment pas bien la piscine, ça les saoule. Donc du coup, voilà, c'est souvent le McDo, et on voit comment c'est effectivement satisfaire les pulsions orales, satisfaire une forme d'excitation aussi dans une forme d'agitation motrice, que ce soit la piscine ou le manège, et puis après le cinéma pour une forme d'évasion et de rêverie, puis en plus ça permet de fuir le lien et puis de pas trop scrutiner son gamin, parce que tant qu'on est au cinéma on regarde le film, et comme ça on n'a pas trop à s'interroger sur ce qu'on vit. Donc du coup, voilà, je réfléchissais à ça en me disant que effectivement les parents qui ne vivent pas avec leurs enfants sont confrontés à cette pénibilité de pouvoir exercer leur autorité dans quelque chose qui serait aussi des contraintes, faire les devoirs, hein, et du coup quand l'enfant revient d'un week-end, souvent bah, il est fatigué, il n'a pas été lavé, pour les petites filles elles ont ni les cheveux lavés ou peignés, et puis voilà, donc elle est retrouvée lundi matin à l'école en étant complètement éclatée, décalée, enfin voilà, et là il n'y a plus de repères spatio-temporels, on a l'impression que tout ce que la maman avait vainement essayé de mettre en place pendant 5 jours, le papa l'a détruit, voilà. Dans ces situations où effectivement il y a une difficulté de régulation dans la capacité entre ces parents qui viennent de se séparer, quand ils sont en situation de crise, à pouvoir se parler, se dire les choses et se transmettre aussi les contraintes qui sont liées à la position parentale. Je pensais à cette situation de séparation parce qu'elle elle renvoie souvent des effets comment dire, d'incestualité latente, d'emprise, hein, de séduction entre parents et enfants. Le modèle est le suivant. Imaginez une famille typique, un père et une mère, ils ont un enfant, les parents se séparent de plus en plus tôt, il est d'usage souvent de se séparer même avant l'accouchement, enfin, et du coup, ils se séparent et qu'est-ce qui se passe? La maman se retrouve seule avec son enfant. Et là, elle vit cette douleur de la séparation. Si on pense la question du modèle du deuil, hein, et du modèle de, je dirais finalement, de la perte, du vécu de perte, elle vit ce modèle sur une forme de dépressivité qui est somme toute évidente. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de se retrouver à ce moment-là de sa vie confrontée, seule, à devoir élever un enfant. Ce dont on s'aperçoit bien souvent, c'est qu'ils vont se consoler à deux. Et que la maman va utiliser son enfant dans une forme de repli, comme ça, une forme de régression à deux. Et l'un et l'autre vont se consoler. Et dans une forme d'incestualité, de bonne aloi, presque, si vous me permettez l'aspect quasi nauséabond de la formulation. Mais dans une forme d'incestualité de bonne aloi, la maman va essayer de prendre soin de son enfant en disant « Mon pauvre ou ma pauvre, tu viens de perdre ton papa, c'est pas facile, il nous a laissé tomber et du coup elle va lui consacrer énormément de temps. » Et en faisant ça, elle traite sa propre question à la solitude, à la séparation, au vécu de la perte, et on se retrouve effectivement avec des situations potentiellement symptomatiques, dans le sens où l'enfant se trouve d'emblée impliqué dans une forme de, d'étayage, une forme d'antidépresseur, hein, ou de contre-investissement pour le parent. Là, on a bien en tête, du point de vue de nos théories psychiques, qu'effectivement, il y a un déplacement des investissements libidinaux, hein, et que si la mère, elle, déplace son investissement sur l'enfant, ses investissements libidinaux sur l'enfant, l'enfant, lui, va devoir traiter la question de la perte aussi, hein, en utilisant sa mère comme un objet pour pouvoir traiter son vécu de séparation. Je pensais à une mère qui m'avait dit que par rapport à sa fille de 3 ans, quand je lui demandais si elle avait un doudou, tout ça, elle m'avait dit « Son doudou, c'est moi. » et en se touchant la poitrine opulente qui était la sienne, ça. Et voilà, donc avec ce mouvement qui venait dire, voilà, son doudou c'est moi, et je lui avais expliqué que ça allait être compliqué, qu'on n'allait pas pouvoir lui découper les seins le jour où l'enfant partirait à l'école, enfin que, et voilà, on voit bien comment ce repli là sur soi, il y a un retour d'une forme, on pourrait qualifier ça, de narcissisme primaire, une régression à l'état d'une forme de narcissisme primaire, où finalement les investissements libidinaux sont retournés sur soi, en tout cas pour ce qui concerne le parent, retournés envers soi, et que l'enfant n'est utilisé que, je dirais, pendant un temps, que pour essayer de traiter son propre rapport à la séparation. Du coup, dans ces situations, on s'aperçoit que souvent, il va falloir qu'un tiers extérieur intervienne, un tiers extérieur qui va être le tiers social du côté d'une forme d'aide éducative ou d'assistance éducative, ou alors d'un nouveau compagnon. Parfois, c'est ce qui peut arriver de mieux. C'est pour ça qu'on peut se passer des psys, je vous le recommande, dès qu'on peut, c'est mieux. C'est pas toujours utile. Et on peut très bien, il suffit de retrouver quelqu'un, mais pour retrouver quelqu'un, vous allez me dire, il faut être dans la capacité de pouvoir réinvestir un objet tiers, et non pas d'utiliser son enfant comme une forme d'objet nostalgique de la relation qu'on a eue. Et à chaque fois qu'on regarde ses cheveux ou ses bouclettes blondes, on pense au papa, parce qu'il ressemble tellement ou elle ressemble tellement à son père que... Et effectivement, là, ça crée un point de souffrance. À un moment donné, il faut parfois, effectivement, aller consulter un peu pour essayer de relancer le processus de croissance et rendre possible une forme de réouverture à, effectivement, un regard qui peut dès lors se sortir de cette boucle comme ça interindividuelle et aller regarder vers l'extérieur, ce qui permettra à la personne de retrouver un conjoint ou de retrouver d'autres formes d'investissement qui permettront à l'enfant de respirer un petit peu et de ne plus être pris, je dirais, dans cette dimension soignante vis-à-vis de son parent, resté seul. J'avais différentes formes, je vois que le temps passe, je vais peut-être pas toutes vous les citer. J'avais pensé à d'autres formes qui étaient liées alors, parfois à l'immaturité des parents. Hein. Quand on travaille avec des parents, pour ce qui est souvent notre cas, comme je vous le disais, on travaille souvent avec des gens qui vont pas bien, donc c'est un peu le problème, avec du coup qui ont des carences sociales ou éducatives, des carences intellectuelles graves, et on s'aperçoit que ça complexifie le positionnement de l'autorité parentale et de l'autorité de l'enfant. Peut-être, vous pourriez me dire, et puis je suis en train de me le dire surtout, à l'heure qu'il est, là, je n'ai pas forcément évoqué la question de l'autorité de l'enfant. Qu'est-ce que je voulais proposer un peu dans cette formulation audacieuse qui serait que l'enfant aurait une autorité. Mais qu'est-ce à dire ? Enfin, l'enfant, il a une autorité, bien souvent, pas vis-à-vis de ses parents, en tout cas pas directe. Il a une autorité au sein du groupe familial dans les relations de rivalité au niveau de ses liens fraternels. Là, on va voir comment la question d'être aîné ou puiné peut induire quelque chose, une forme d'autorité, hein, et comment l'enfant peut, par effet d'identification à l'agresseur, répéter une expérience traumatique. Hein. Si les enfants, je ne sais pas, c'est une banalité ce que je vous dis, hein, mais quand les enfants jouent à la maîtresse ou au docteur, hein, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est les expériences, enfin, ils jouent au papa et la maman, à la maîtresse ou au docteur, vous avez repéré quand même. Hein. Et globalement, c'est toutes les expériences les plus traumatiques qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est d'avoir des parents, d'avoir une maîtresse et d'aller chez le docteur. Et que du coup, alors après plus tard, ils joueront au docteur avec une autre intensité et ça leur permettra de y prendre plaisir, mais du côté de la découverte de leur sexualité infantile. Mais dans un premier temps, quand ils font ça, quand ils mettent ça en scène, ça a été développé, entre autres, je crois, par un affreux, si je ne dis pas de bêtises, hein. Y a cette idée que l'enfant s'identifie à une expérience traumatique, la répète pour la symboliser, pour se la réapproprier, et en dégager, finalement, les enjeux qui sont, je dirais, potentiellement... qui sont... potentiellement, qui intéressent en tout cas la dimension d'un processus de croissance et qui ne sont pas uniquement du côté du traumatisme. J'avais pensé effectivement la question, par exemple, on va dire une situation de la maladie psychique d'un parent. Dépression, on pense tout de suite à André Green, qui est mort il y a peu de temps d'ailleurs, André Green sur le complexe de la mère morte. Je peux vous renvoyer vers cet article, même s'il est un petit peu comme ça ardu pour les non-spécialistes, mais sur l'idée qu'effectivement, quand un parent déprime, eh bien, l'enfant se trouve confronté à devoir faire faire avec toute la souffrance de son parent, il en est témoin, et comment il peut essayer de survivre à ça, et ce que ça induit dans, après, sa façon d'être en lien avec ses parents. Dans la clinique qui est la nôtre, il nous arrive d'avoir des parents qui sont vraiment des grands psychotiques, qui sont très très en difficulté et dont on serait rapidement tenté de se dire diagnostic, bonne psychose, on retire tous les droits et puis on arrête le lien parce que c'est toxique, néfaste ou autre. Ça, c'est un discours que moi je serais prêt à tenir socialement, politiquement presque, pour ainsi dire, vis-à-vis peut-être de la perversion, hein, parce qu'à l'heure actuelle, la loi française continue de proposer des rencontres, même si elles sont médiatisées, entre des parents et des enfants, quand il y a eu même des cas d'inceste ou d'abus sexuels, ce qui interroge. Si cette position-là, voilà, on peut la tenir vis-à-vis de, je dirais, de structures perverses ou psychopathiques, vis-à-vis de la psychose, il en est tout autre. On s'aperçoit, au fil du temps, que c'est, on parlait historiquement, vous savez, de mères, comment dire, psychogènes, hein, ou schizophrénisantes, ou, enfin voilà, donc souvent les mères qui ramassent, hein, mais les papas sont pas loin, ou alors ils sont loin justement, donc c'est les mères qui ramassent, c'est les seules qu'on arrive à choper parce qu'elles sont pas encore parties très loin. Et du coup, les, voilà, donc souvent c'est elles qui sont coupables d'eux, et cette idée que des mères pourraient rendre fous, pourraient structurer leur enfant sur un mode psychotique, parce qu'elles le sont elles-mêmes. Ce dont on s'aperçoit, et ça c'est la réalité de la clinique, c'est que globalement, si le lien est accompagné, si les rencontres sont médiatisées pendant un certain temps, quand je dis un certain temps, ça veut dire des années hein, quand même, et que la personne reconnaît à minima sa maladie ou se soigne, hein, qu'elle puisse effectivement avoir un traitement neuroleptique et puis essayer d'avoir une réflexion sur sa situation interne, on s'aperçoit que ces personnes-là peuvent développer une forme de parentalité qui est non évidente d'emblée, c'est-à-dire que ce qui est censé être naturel chez la plupart des parents ne l'est pas forcément, hein. Mais pour autant, persiste une forme d'étrangeté dans le contact, dans le lien, dans le comment faire, dans l'adéquation entre quelque chose qui serait du côté de l'évidence naturelle et puis l'évidence du monde interne du parent en question, on s'aperçoit quand les choses sont accompagnées, on a des parents qui, bien qu'étant vraiment relevant de, je dirais, l'état psychiatrique majeur, arrivent à s'occuper de leurs enfants et que ça n'en fait pas des fous pour autant. Ça n'en fait pas des enfants débilisés pour autant, ça n'en fait pas des enfants qui développent des troubles psychiques majeurs, à condition que ces liens-là soient accompagnés. De l'expérience qui est mienne vis-à-vis de ces données-là, et puis j'ai deux de mes collègues dans la salle qui travaillent sur la même structure, on pourra en parler là, dans l'après-coup, on s'aperçoit que souvent l'enfant, dès lors qu'il est à peu près sorti de la question de la problématique oedipienne, arrive à pouvoir avoir une perception de son parent du côté de « papa est fou, maman est folle », et qu'à partir de cette question-là, et c'est eux qui formulent ça comme ça, on n'a même pas besoin de leur formuler, ils s'aperçoivent que leur parent, à leur façon, a un rapport particulier au monde, parfois part dans ses idées, se fait des constructions imaginaires, et ils le vivent pas trop mal, à partir du moment où ils commencent à pouvoir discriminer, que là, le parent n'est plus en contact, et ils sont en sens des fins cliniciens, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même, malgré tout, assez tôt, à pouvoir développer ces capacités, ce qui leur permet de ne pas être complètement perdu dans un monde qui pourrait être angoissant face à quelqu'un qui délire. Hein. Parce que c'est quand même une expérience étrange pour ceux qui sont déjà coltinés psychotiques, autrement que quand on les croise dans le bus ou dans un jardin public, mais quand on cause ne serait-ce que voilà, une heure avec quelqu'un qui est du côté de la psychose, on voit que c'est une expérience étrange. Mais tu disais hier, voilà, ça crée une forme de trouble intérieur, confusion des pensées, on ne sait plus vraiment où on est, et on peut imaginer que chez un enfant ça ait un effet dévastateur, hein. Et bien pour autant, quand ça s'est repris, quand c'est qualifié, y a véritablement quelque chose qui peut se développer d'un sentiment d'attachement et de parentalité chez le parent et d'affection profonde pour l'enfant et d'identification aux parties saines du parent, hein, et que les aspects les plus fous peuvent être, en étant circonscrits comme tels, isolés et être des modèles, on va dire, contraints identificatoires, hein, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir se dégager de cette question-là. Je crois que c'est une question importante aussi parce que dans les enjeux qu'il peut y avoir dans l'accompagnement du lien entre parents et enfants, souvent on serait rapidement tenté de dire bon bah le parent est fou, plus il verra son enfant, plus il va mettre l'enfant en difficulté, il faut tout arrêter. On s'aperçoit que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Si ce n'est, et là je pointe effectivement des points de complexité dans ces dimensions-là, si ce n'est qu'en grandissant, l'enfant va pouvoir avoir une perception de son parent en tant que fou, et du coup, va venir disqualifier la question de son autorité parentale. Là, je voulais, tout ça pour venir, parce qu'au début je vous ai dit l'autorité de l'enfant, vous vous souvenez, l'autorité de l'enfant, du coup, elle va s'exercer dans le sens où l'enfant peut être mis, et c'est un risque, du côté d'une forme d'adultisation, hein, de parentalisation de sa position. Il y a souvent l'aménagement de capacités intellectuelles qui vont, je dirais, qui vont être mises en tension, dans le meilleur des cas, du côté d'une hyperstimulation pour essayer de penser cette question de la complexité de la folie, dans les pires des cas, effectivement, du côté d'une forme de débilisation pour éviter de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, l'enfant, effectivement, va être, comment dire, en capacité d'avoir autorité sur le parent, en sens où le parent est bien souvent disqualifié au regard de l'enfant vis-à-vis de ses compétences. Et ces problématiques-là peuvent amener par la suite des troubles du côté de développement d'une forme de tendance antisociale, hein, ou dans le pire des cas, d'une forme d'inversion des affects du côté d'aménagement pervers. Ce que je veux juste vous proposer de ce côté-là, c'est que l'autorité parentale, quand des difficultés... Alors là, je vous prends le cas, je n'aurai pas le temps de prendre toutes les situations que je souhaitais prendre. J'avais pensé aussi à la question, par exemple, du handicap ou de la maladie grave d'un enfant, hein, où là, peut-être dans une position un peu négative de ce que je viens d'exposer, on s'aperçoit qu'ici, la culpabilité est très forte chez le parent, et quand l'enfant a une maladie grave, prenons une leucémie, un cancer, des choses comme ça, le parent peut être en difficulté pour exercer son autorité, attendu qu'elle contient aussi une part de haine et de sadisme, et qu'on peut imaginer que c'est éminemment complexe pour un parent de faire autorité, de priver, de restreindre, de limiter, d'imposer le renoncement à son enfant, alors que celui-ci est confronté par un renoncement naturel, à une limitation naturelle du côté de la vie, à savoir est-ce que la vie va continuer ou non, et effectivement la violence qui est adressée par la maladie, par l'arrivée d'un handicap, ou d'une difficulté de vie comme ça forte, peut limiter la capacité du parent à exercer pleinement une forme d'autorité suffisamment libre. Dans cette idée d'une forme de réparation, je dirais, narcissique, qui prend toute la place. Cette réparation narcissique ou cette forme de consolation comme ça, on voit bien qu'elle peut être dans un sens ou dans l'autre. Si le parent est malade, si l'enfant est malade, on voit bien comment ça va venir interférer dans la question de cette équilibration du côté de l'autorité parentale, enfin l'autorité au sein du groupe familial, et du processus d'autorité. J'avais pensé aussi, peut-être une dimension plus banale, mais de se dire que l'enfant, là où il fait autorité, alors on peut imaginer, moi, quand il bosse en ITEP, il y a des gamins qui développent ce qu'on appelle les troubles du comportement, enfin ils appellent comme ça maintenant, certains, ça va du côté d'une forme de tendance antisociale ou de prédélinquance. Là, quand ça s'agit, ça met le parent en difficulté et ça fait autorité. On s'aperçoit que la plupart des enfants qui sont suivis, enfin des parents et enfants, des situations familiales qui sont suivies par des travailleurs sociaux. Ce qu'on appelle être suivi, c'est pas être persécuté. Les gens ne suivent pas partout, hein, mais c'est normalement. Mais c'est accompagné. C'est un accompagnement intensif de la part des AEMO ou de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a au moins une visite par mois. Et cet accompagnement-là tente de réguler quelque chose du lien intrafamilial. On s'aperçoit aussi comment la parole de l'enfant ici, et certains enfants sont bien plus malins que leurs parents, vont utiliser ces espaces-là pour, pour exercer une forme de sadisme ou de en représailles vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs parents. Et là, ce serait la pensée, et que du coup, ils utilisent l'avenue. Moi, je me souviens d'une situation familiale, pour dresser un tableau assez rapide, où une jeune fille assez tyrannique, qui a développé des troubles phobiques et obsessionnels majeurs, refuse toute alimentation venant des parents, tout vêtement acheté par les parents, avec une espèce d'organisation autour de la souillure, en disant que tout est sale, ça correspond à son monde interne, hein. Et une fratrie assez importante, des parents assez démunis, et quand l'assistante sociale est venue pour faire une première enquête sociale, un petit frère qui avait mélangé de la nourriture avec des excréments d'animaux, les vêtements et tout ça dans la chambre, parce qu'il vivait aussi avec des animaux, enfin, et il n'y avait pas que des enfants. Et alors, c'est vrai qu'ils étaient un peu tous ensemble. Bon, ça arrivait avant, il paraît que fut un temps, dans les zones rurales, les gens vivaient beaucoup plus proches des animaux, je sais pas. Enfin, maintenant, on a un regard beaucoup plus hygiéniste là-dessus. Bon, peut-être que finalement, c'est pas forcément si mauvais, mais en tout cas, le petit frère de cette jeune fille avait mélangé, donc, excréments d'animaux, la présence des animaux, enfermé une poule dans un placard, enfin voilà, les vêtements un peu de partout, sans dessus dessous. Et l'assistante sociale est arrivée, et il a dit, viens voir ma chambre. Et du coup, il lui a montré la chambre où il y avait la poule qui se baladait, des crottes de trucs de chiens, et puis, enfin voilà, à côté des Kinder et des, enfin, et que l'assistante sociale a vu ça, et en sortant, et le gamin quand même de lui dire, il y a 8 ans, de lui dire, bon, t'as vu maintenant, tu vas faire quelque chose. Et scène quand même qui parle, où on se dit, là il y a une utilisation du travailleur social par l'enfant, hein. Qui appelle à l'aide, qui n'est pas entendu et qui est obligé effectivement de scénariser quelque chose dans quelque chose de effectivement de parlant. Hein. Là, je vous prends un cas qui arrive à se représenter, à se figurer dans nos esprits de façon assez manifeste. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire une forme d'interpellation comme ça, les travailleurs sociaux par les enfants qui viennent dire fais quelque chose pour moi, voire parfois qui instrumentalise, et là il faut faire attention, leurs compétences qu'ils arrivent à développer parce qu'ils sont suivis par moult psy, orthophoniste, rééducateur quelconque et tout. Donc ils développent un insight très pertinent, ils développent des capacités comme ça très fines sur eux-mêmes, et du coup ils mettent au profit leur capacité d'analyse vis-à-vis d'eux-mêmes aussi dans leur façon d'analyser les adultes. Et donc ils développent une capacité de pouvoir analyser leurs parents, de pouvoir analyser. Moi j'ai une jeune fille, ado, là du coup un peu plus. Qui me disait oui, je vois bien quand la maîtresse nous a dit faites une rédaction sur tel sujet. Et elle commence à me raconter le sujet, je ne l'ai plus exactement en tête. Et elle disait mais j'ai bien compris quand elle faisait ça. Le but c'était pas de nous faire écrire et de valider le français, c'était un test psychologique, vous croyez pas? Le but c'était de savoir qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce que je ferais dans telle situation. Et on voit comment là, il peut y avoir un petit fond paranoïde qui s'installe, hein, et qui vient effectivement se généraliser en disant, mais voilà, tout ce qui viendrait de l'adulte peut être une forme à la fois de, je dirais, intrusive, comme une enquête sociale, comme une investigation du côté de la protection de l'enfance, et à la fois comment moi, en tant que jeune fille, adolescente ou jeune garçon de 8 ans, j'ai développé des capacités et une forme de pertinence dans la lecture du monde, et je vais utiliser ça aussi pour jouer de l'autorité de mes parents et les mettre en difficulté et utiliser travailleurs sociaux ou tiers extérieurs comme ça pour venir à mon tour pouvoir jouer de ça et en retirer des formes de bénéfices secondaires. Donc, surtout à l'adolescence, il y a, je crois, un enjeu majeur de ce côté-là, et on voit comment les enfants peuvent tirer profit de toute l'aide qu'on peut leur apporter. D'une manière générale, j'avais envie de finir, je vais m'arrêter pour qu'on puisse quand même avoir le temps de causer, peut-être plus librement. souhaitais peut-être juste faire une petite synthèse. Bon, je n'ai pas développé un petit peu toutes les idées qu'aurait pu être développées, mais on pourra les reprendre ensemble. Une petite synthèse qui serait alors, une forme de vademécum, mais alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu audacieux de dire ça, mais peut-être en tout cas de penser que une interrogation que je pouvais avoir au début autour de l'idée de est-ce que finalement un enfant peut être préservé de la souffrance ou des défaillances de son environnement. Est-ce que tout environnement ne va pas lui faire se confronter à ce principe de réalité qui est que les finalement en tant qu'hommes et femmes adultes nous sommes faillibles, en tant que parents nous sommes faillibles et que du coup on va déprimer, on va aller bien, on va aller mieux et comment toute famille suffisamment bonne, aurait dit Winnicott, pourrait réussir réellement à préserver son enfant de ces enjeux-là. C'est un peu une tâche impossible en y réfléchissant bien. Je pensais à une réflexion que me faisait une amie il n'y a pas très longtemps, qui est une jeune maman, qui me disait, son enfant doit avoir vers 2 ans, quelque chose comme ça, et elle me disait, tu sais, c'est compliqué parce que là on s'est aperçu que maintenant on ne peut plus dire ce qu'on veut, et comprend les trucs. Et avant on parlait comme on voulait entre nous, et là maintenant il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Parce que, au-delà de répéter les gros mots et tout ça, c'est surtout si je commence à critiquer la grand-mère ou je sais pas quoi, et puis parce qu'en couple c'est les choses qui se font, hein, ou la belle-mère, ou voilà, et puis la gamine ou le gamin en question commence à dire ah, mamie, maman, elle a dit que mamie c'était méchante, ou je sais pas quoi, du coup ça va poser souci. Et jusqu'avant, ça dans le couple ça pouvait se faire. Et puis là, l'arrivée d'un enfant, l'enfant fait autorité à cet endroit-là, suppose aussi un renoncement du côté de ses parents, et les parents commencent à se dire, bon, mince, on peut imaginer que ça arrive à peu près autour de 2 ans, quand le langage s'est suffisamment développé pour que l'enfant comprenne ce qui se passe autour de lui, et puis puisse le ressaisir et le rebalancer de façon assez gênante. Voilà, et du coup, ces situations-là, elles supposent que les parents puissent accepter ce renoncement, de se dire, maintenant on ne dira pas tout. Pas tout tout le temps, pas tout devant lui ou devant elle, pas n'importe comment, et que du coup on commence à circonscrire, à localiser des espaces et à pouvoir dire on le dira quand elle est couchée, on le dira quand elle sera à l'école ou voilà, et que du coup on va tenir en discrétion, on va commencer à cacher des choses à son enfant, on va commencer à le préserver à minima, et que le préserver à cet endroit-là c'est aussi peut-être pouvoir le préserver d'une réalité du monde qui est éminemment violente, d'un papa qui pourrait être au chômage, d'une difficulté à remplir le frigo à la fin du mois. Et on voit comment les enfants qui sont témoins de ces réalités sociales difficiles se sentent impliqués, se sentent concernés par le monde. Et dans un modèle idéal, qui est bien sûr quasiment impossible à tenir, il faudrait dans l'absolu pouvoir préserver ces enfants pendant une bonne partie, la plus longue qui soit de leur développement, de ces réalités difficiles de vie, les préserver du monde qui va mal, du conflit israélo-palestinien, de ces choses-là, parce qu'il y a des enfants qui, effectivement, très tôt, passent leur journée devant la télé. Et voilà, ces choses-là ne sont pas accompagnées. Des difficultés économiques. Moi, une gamine qui me disait, c'est le 5 du mois, c'est bien. Et elle me disait, je suis sûr que vous ne savez pas ce que ça veut dire que c'est le 5 du mois. Et je l'ai laissé dire, parce que ce n'était pas le but de savoir si je savais ce que c'était ou pas. Mais effectivement, c'est au moment où tombent les minima sociaux, et que c'est à ce moment-là qu'ils allaient à nouveau pouvoir remplir le frigo. Donc on voit bien comment, dès 13 ans, une jeune fille peut être concernée par ces aspects-là, et va pouvoir développer un trafic de cannabis pour essayer de soutenir sa famille dans une dimension, peut-être de travailleurs sociaux aussi, mais finalement qui prend une voie qui va être considérée socialement comme celle d'une tendance antisociale ou d'une prédélinquance. Donc, mon espoir utopique, s'il en est, était de dire comment on peut préserver un enfant de la réalité du monde. Alors, on ne peut pas le faire vivre dans un monde en vase clos, il n'y a rien de pire, sinon on est dans une secte. Mais en tout cas, comment on peut faire en sorte qu'il soit préservé de la violence du monde ? Ça ne veut pas dire l'isoler du monde, mais ça veut dire ne pas lui laisser à charge la difficulté des adultes quant au fait que, la responsabilité finalement des adultes quant au fait qu'ils pourraient avoir une marge de manœuvre sur cet état de fait. si le frigo est vide, de ne pas laisser imaginer à l'enfant que il a une part de responsabilité là-dedans, ou que il pourrait participer dans le fait de le remplir, hein, ou de moins le vider, hein, parce qu'il y a tout ça, voilà. Et que finalement, plus l'enfant réussit à être préservé de ça, plus il peut être maintenu dans une forme de naïveté vis-à-vis du monde, qui lui permet de développer plus tard une forme de, je dirais, de sphère d'illusion, de créativité, et je crois que c'est ce sur quoi se fonde l'espoir. Hein. On s'aperçoit que ces enfants confrontés à ces difficultés-là vont s'organiser autour d'un noyau dépressif majeur, que Winnicott a très bien traité du côté de la question aussi de la déprivation, mais je pense que la question de une forme de dépressivité latente liée à cette forme de rudesse du principe de réalité peut faire émerger des difficultés précoces chez ces enfants. Voilà, j'aurais traité les choses à grands traits, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, et puis je vous propose désormais qu'on continue de causer de tout ça sur une forme un peu plus spontanée. Voilà, je vous remercie.